Bonjour, c'est Solène, je suis la cofondatrice de Feuilles Blanches. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est produit par notre agence. Nous sommes producteurs de médias d'inspiration pour les entrepreneurs et créateurs de contenu de marque. Vous avez un projet de création de contenu? N'hésitez pas à nous joindre sur uncafé@feuillesblanches.com. En attendant, bonne écoute!
Mais où en est donc Ornica? Réponse avec notre invité, son CEO et cofondateur Benjamin Guéniaud, accompagné de mon compère Olivier Mathieu. On lance officiellement le 40 nuances de Next de Benjamin.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuilles Blanches, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Alors moi j'en veux plus, je veux plus de Benjamin Guéniaud et je veux plus de bonjour, on ne s'est même pas salué. Bonjour Benjamin.
Salut Thomas.
Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas, bonjour Benjamin.
Salut Olivier.
Alors on va parler maintenant d'Ornica, donc c'est une très belle entreprise française qui a intégré récemment le Next 40. Donc Benjamin Guéniaud, tu es le président et cofondateur. On reviendra un petit peu sur l'historique. Je crois que c'était créé en 2013 avec un associé qui n'est plus à bord. On pourra revenir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est qu'Ornica? Ce sont au départ, je pense plutôt des cours de code en ligne, mais aussi une innovation sur le fait de faire appel à des enseignants indépendants. Il faudra revenir parce que ça a évolué pas mal depuis début 2013, pardon. Sachant que c'est un secteur qui est relativement encadré. Donc je pense qu'il a fallu lutter aussi contre la régulation et de cette profession-là en particulier. Il y a d'ailleurs quelques concurrents qui sont arrivés aussi dans votre inspiration, on pourra en parler. Donc il y a 100 millions d'euros qui ont été levés il y a exactement un an, en avril 2021. Donc c'était une levée de fonds en une grosse série C menée par KKR, un des très très gros fonds internationaux américains connus, avec des Français aussi qui ont suivi d'Invest, BPI via son fonds aussi Large Venture je crois, et Elaya, et on pourra citer tous les autres. En tout cas, j'ai relevé qu'il y avait eu 146 millions d'euros de levée depuis le début, oui, d'Ornica, si le chiffre est bon.
Bravo.
Et je crois qu'à l'étranger, maintenant, Ornica aussi est devenu On Road. Est-ce que c'est le nom qui est effectivement
bravo.
Retenu?
Alors, j'ai fait de voir.
Hein. Ah ouais. Non, mais j'avais noté qu'il y avait l'Espagne, l'Allemagne. Je ne sais pas s'il y a encore
l'Espagne.
D'autres pays.
L'Allemagne, on a fermé. Donc
d'accord. Ok. Il y avait également des projets de diversification pour lancer d'autres produits comme l'assurance automobile. Alors, je ne sais pas si ça.
Ouais. Alors là, ça a dépassé le stade de projet, mais oui, on en parlera.
Ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'on évolue dans ce secteur de l'automobile qui est pas mal bousculé aussi, malgré tout, quand on regarde de l'intégralité de ce marché. En tout cas, l'objectif 2021, puisque maintenant on est en 2022, qui avait été annoncé de plus de 70 millions d'euros. Donc on pourra revenir voir est-ce que les objectifs se tiennent. Il y a beaucoup de start-up ou de scale-up qui ne communiquent pas sur leur chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant de voir à quel point tu peux être transparent. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Donc ça bienvenue va. À toi.
Merci beaucoup.
Pour nous embarquer dans l'aventure Ornica, tu as choisi une musique. Il a fallu se battre.
Exactement. Je pense que ça représente assez bien les débuts d'Ornica en tout cas.
Beaucoup d'entraînement avant d'en arriver là.
Ouais, beaucoup de coups.
Benjamin Balboa.
Avec son équipe quand même.
En musique et en rythme, si tu devais lister tous les coups que vous avez pris.
Écoute, on a eu nos 3 premières années, donc on s'est créé en 2013. Et en 3 ans, on prend 12 procès. De syndicats d'auto-école traditionnels. On prend 2 ans et demi pour obtenir un agrément auto-école, alors que n'importe quelle société qui veut être une auto-école l'obtient en 2 semaines en France. Et à la fin de ça, on finit par un peu se brouiller, enfin même complètement se brouiller avec mon associé de l'époque. Donc il n'y avait pas grand chose de pire et pas beaucoup d'épreuves qu'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur jeune, peu importe, n'ait pas affronté pendant ces 2 ans et demi. Donc heureusement, j'étais bien entouré à titre pro avec le premier salaire de la boîte qui est devenu mon associé, et à titre perso avec ma famille et ma femme qui était pour moi un exutoire évidemment très important, sinon je pense que jamais j'aurais pu tenir.
Il y en a beaucoup qui seraient restés sur le coin du ring, qui auraient jeté l'éponge.
Je sais pas, mais en tout cas moi je déteste perdre, donc j'essaye de pas trop perdre et je suis très joueur, donc je vais jusqu'au bout.
Alors comme on renouvelle un petit peu, avant on avait une rubrique qui était le pitch, et on essaie de renouveler un petit peu ça, parce que finalement très souvent les entreprises ont évolué, le sujet du pitch.
Je vais te couper.
Of the Tiger.
C'est bon.
J'aime bien être interrompu par la bonne musique. Oui, enfin donc du coup, sans revenir forcément sur le pitch lui-même, parce que finalement, Ornicar, d'une certaine manière, il est assez simple, et c'est aussi ce qui fait souvent les grandes entreprises, hein, c'est qu'on peut raconter facilement l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même de voir d'où vient l'idée au départ. C'est-à-dire que souvent, je pose la question, moi-même, maintenant que je suis aussi investisseur, avec 2050, on s'entraîne à essayer de comprendre le problème qu'on essaie de résoudre. Est-ce que toi, c'était une passion sur l'automobile ? Est-ce que c'est une anecdote qui fait que tu as eu dans ton entourage ou toi-même des difficultés au moment de passer le permis ? Est-ce qu'il y avait un problème identifié ?
Ou comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez dit qu'est-ce qui reste à disrupter ?
En fait, c'est un peu tout ça, sauf le storytelling sur le fait que je sois moi-même une victime de mon auto-école. Ça s'est très bien passé. J'ai passé le permis de là où je viens, à savoir Châteauroux, et avec mon auto-école, j'ai eu une très bonne expérience. La création d'Ornicar, c'est surtout qu'on a 24 ans quand on lance Ornicar, et pour le coup, beaucoup de nos potes galèrent pour passer leur permis de conduire. C'est trop long, c'est trop cher, c'est trop contraignant, etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, on tombe sur une étude qui dit que le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France et le plus passé dans le monde, bien plus que le baccalauréat ou quoi que ce soit. Et que, en parallèle de ça, donc c'est 1 million de candidats qui passent leur permis
en France.
En France. Et qui dépensent en moyenne 2000 euros en 2013. Donc ça fait un marché de 2 milliards d'euros. Donc c'est une opportunité de marché. Et puis le deuxième chiffre qui est important dans cette étude, c'est que 82% des utilisateurs qui passaient par une auto-école étaient insatisfaits de leur expérience. Donc un marché de 2 milliards adressé avec 82% de taux d'insatisfaction, ça s'appelle une opportunité. Et effectivement, c'était nous quelque chose qui était redondant parce que beaucoup d'amis qui galéraient. Et puis le dernier sujet, il faut être honnête, c'est comment on a construit ce modèle. 2013, c'est l'arrivée d'un acteur qui a un peu bouleversé le paysage, notamment en termes de modèle social en France, c'est Uber. Uber arrive en 2013 avec son modèle de plateformisation, pour pas utiliser le terme d'uberisation, avec le recours aux indépendants et donc une meilleure efficience économique dans son modèle. Et finalement, c'est l'alchimie de tout ça qui fait qu'on dit il y a une opportunité, il y a un marché, il y a un besoin, il y a un modèle, et il y a absolument aucun digital.
Et à l'époque, votre réponse, c'était
Ornicar. Ornicar, commencez par...
C'est pas le Ornicar d'aujourd'hui.
C'est presque, en tout cas sur l'auto-école, finalement, même si on a changé, on a pivoté entre-temps, on est revenu à la base sur ce qu'on avait au début. Au début, on voulait vraiment être une auto-école disruptive, donc proposer une alternative aux auto-écoles traditionnelles, donc avec du code de la route, mais de la conduite. La conduite, elle était là dès le début. On voulait emmener les gens au permis de conduire avec une solution qui est plus digitale et moins chère. Donc ça commence par le code de la route, qui est notre premier produit quand on passe au permis de conduire. Puis ensuite, cette marketplace entre enseignants de la conduite et candidats au permis de conduire. Ça a été notre idée de départ et c'est l'idée qu'on exerce aujourd'hui sur notre business unit éducation. Effectivement, on s'est rendu compte avec le temps que pour être une auto-école, il faut être agréé, avoir un agrément d'auto-école qui est délivré par la préfecture de votre lieu d'établissement. Et bon, pour la petite histoire, cet agrément, normalement, c'est un lecteur DVD, un local de 25 mètres carrés, une télévision, une voiture double commande et un contrat avec un enseignant de la conduite diplômé, quoi. A priori, pas compliqué.
Et ça n'a pas évolué, ça c'est toujours la réglementation actuelle.
Ouais, c'est toujours la réglementation actuelle pour être une auto-école. C'est local, et puis cette capacité à prodiguer de la formation, ça passe par un lecteur DVD et une télévision. Donc on est en 2022. Peu importe. Le dossier est assez simple, on le remplit, et puis 2 ans et demi après, toujours rien. Donc évidemment, entre temps, 2 ans et demi, c'est long, sachant qu'on fait une levée de fonds après 8 mois après notre création. Et donc finalement, on doit expliquer à nos investisseurs quasiment pendant 2 ans.
Ça arrive.
Que vous n'avez pas le droit de.
On n'a pas le droit de faire ce pourquoi ils ont investi.
Juste pour recadrer dans le timing, les procès arrivent plus tôt que les 2 ans et demi. Ils arrivent très vite.
Bien sûr.
Et après une grosse communication de votre part, enfin, je crois qu'on a entendu parler d'Ornicar à peu près partout.
Ouais. Alors, très, schématiquement, création fin 2013, premier procès 6 mois plus tard, donc mi-2014. On gagne à moitié notre procès, mais on communique sur le fait qu'on gagne. Donc tout le monde
cette
est
bonne guerre.
Exactement, cette bonne guerre. Et puis tout le monde adore les faibles. Et donc c'était vraiment le David contre Goliath, la gentille start-up innovante contre les méchantes auto-écoles. Donc ça a bien marché. On fait une très grosse couverture média. Des plateaux radio, des plateaux télé en juillet 2014. A priori, il devait pas y avoir beaucoup de sujets passionnants dans l'actualité parce qu'on était effectivement partout. On a fini par faire la une du New York Times, mais vraiment la une, le 29 août 2014. Et évidemment, un article qui est encadré dans les bureaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une grosse couverture média, même si vous n'avez pas de clients, vous avez des fonds qui vous appellent. Et les fonds, au début, on leur dit, non, en fait, là, c'est trop tôt, etc. Et puis, l'argument qui tue en disant, mais aujourd'hui, vous ne payez pas. Non. Si vous levez des fonds, on peut peut-être vous verser au moins un petit salaire, quoi. Finalement, ça peut être intéressant de lever des fonds. On lève 1 million d'euros en novembre 2014. Donc, moins d'un an après notre création, sans clients.
Avec sans déjà les procès.
Avec un procès gagné, parce que l'appel était toujours pas tombé. L'appel tombe 2 semaines après la levée de fonds. Et voilà. Et donc ça, c'était un vrai gage de confiance de Elaya, Partech, Xavier Niel, Marc Santini, Jacques-Antoine Grandjean, qui sont finalement les investisseurs, et Bertrand, fondateur de La Fourchette, qui sont les investisseurs qui ont cru Ornicar au début.
Berger, oui.
Exactement. Et donc c'est grâce à ça qu'on a réussi finalement à tenir cette espèce de shitstorm de 3 ans. Auquel on attendait patiemment ou pas notre agrément.
Et donc c'était, excuse-moi, mais je me dis, parce que tu parlais de Uber et donc plateformisation et ça, donc c'est aussi un peu en écho, est-ce que c'est pour ça que le New York Times en a parlé, est-ce que c'est un peu en écho avec la résistance des professions un peu protégées, régulées, numerus clausus ou
Alors, je pense que si je suis très honnête et je vais raconter toute l'histoire, le New York Times en a parlé.
On
a parlé pour faire du French bashing, quoi. C'était le titre, je me souviens plus du titre en anglais, mais c'était comment l'administration française bloque une start-up qui a pourtant
tué l'innovation, quoi.
Exactement. Et donc c'était vraiment l'axe d'attaque.
Parce qu'il y avait beaucoup de French bashing au moment des questions de Uber, parce que les chauffeurs de taxi étaient agressifs et on voyait des photos de voitures. En 2014 d'ailleurs, je crois aussi.
C'était peut-être honnêtement, l'article n'était pas tout à fait tourné sur Uber, mais en tout cas vraiment sur l'administration française. Peut-être que c'était en comparaison avec Uber, mais marche clairement sur la tête. Et ça nous a valu une convocation à l'Élysée comme des enfants qui avaient volé des bonbons. Et là, on se fait convoquer à l'Élysée, mais nous, on pensait que c'était super.
Donc à l'époque, c'est Hollande.
Hollande, avec ses conseillers. C'est pas Hollande qui nous reçoit, mais c'est ses conseillers. Et on est reçu. On arrive et tout. Nous, on a 25 ans, quoi. Donc on prend une photo à l'Élysée, trop content. On se fait un selfie. C'est même le garde de l'Élysée qui nous prend.
Est-ce que Emmanuel Macron était là? Parce qu'il était conseiller à l'Élysée à ce moment-là.
Il n'était pas, en tout cas, pas dans la réunion. Ça, c'est clair. Et la réunion, on se fait engueuler comme des petits enfants en disant mais vous avez vu cet article, le French bashing c'est pas supportable, blablabla, vous êtes là pour sauver, enfin pour protéger aussi l'image de la France à l'étranger, blablabla. Ce à quoi on leur répond mais nous on serait ravis de raconter une belle histoire, mais pour l'instant on est en train de vivre un truc complètement lunaire. On vous a fourni notre dossier il y a 8 mois, il est complet et vous nous dites que, enfin, on a juste pas de réponse, quoi. Et donc nous on crame un loyer, on crame des choses comme ça.
Est-ce qu'un jour t'as su où ça bloquait?
Ouais, je sais où ça bloque. La réponse c'est attendez, on a un problème. C'est que les auto-écoles, c'est comme les ambulances, c'est comme les taxis, ce sont des professions véhiculées. Et nous, on veut pas que les auto-écoles, elles aillent bloquer des préfectures. Et donc, pour la paix des ménages, on préfère ne pas vous répondre, parce que vous n'êtes rien, en fait, Ornicar, ce qui est vrai, c'est à l'époque vous n'êtes rien, mais au moins, on se met pas à dos les auto-écoles traditionnelles
qui ont un pouvoir de nuisance, quoi. Oui.
Exactement, c'est histoire de pouvoir de nuisance. Et donc, vous êtes un peu, malheureusement, vous êtes un sacrifice pour la paix sociale, quoi. Évidemment, ça, quand on est joueur, on n'aime pas du tout cette réponse. Et donc, on la raconte à tout le monde. Et donc, c'est là où ils se sont dit, mais en fait, ils sont petits, mais
ils ont aussi un pouvoir de nuisance.
Exactement. Et donc voilà. Et donc on prend la photo pour finir sa petite histoire. On se fait défoncer. On prend la photo, on la poste sur notre page Facebook Ornicar à l'époque où il y avait pas beaucoup de gens. Et on dit la cause avance du permis de conduire, etc. Lendemain, deuxième de couverture, notre photo en gros dans le Figaro en disant les auto-écoles traditionnelles folles de rage parce que Ornicar après 8 mois d'existence sont reçues à l'Élysée alors qu'elles ça fait 4 ans qu'elles demandent. Et là on se fait
réappeler. Ils n'avaient pas le dessous de l'échange.
On se fait défoncer une nouvelle fois par l'Élysée. Donc voilà, donc ça c'est la petite histoire qui nous a appris à mieux communiquer et à mieux gérer notre image.
C'était pas si mal comme communication. Mais du coup la question qui était derrière c'est est-ce que les auto-écoles se sentaient menacées parce qu'il y a un encadrement qui était est-ce qu'il y a un numerus clausus ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas le droit d'aller sur leur terrain pour des raisons vraiment réglementaires, parce que sinon, normalement, juste en ouvrant une auto-école, vous pouviez opérer en respectant la lettre.
Oui. Je pense que elles ont vu une menace dans notre modèle dès le début, c'est qu'en fait, les auto-écoles, c'est un marché qui est très local. Une auto-école, c'est 70 clients par an en moyenne en France, parce que quand elle ouvre dans la ville de Châteauroux, Tartampion, et ben, elle va finalement toucher les rues autour, quoi. Et pas du tout consciente de la puissance qu'elle pouvait avoir avec le digital, etc. Et donc elles ont vu notre modèle, elles se sont dit pour eux, c'était pas possible, légalement parlant. C'est-à-dire que l'agrément était valable pour la ville de Châteauroux, mais pas pour d'autres villes, alors que la loi n'a jamais précisé de localisation pour l'agrément. C'est ce qui a valu, il y a eu au moins, je pense, 8 procès sur le thème de la localisation de l'agrément. C'est
certains procès où c'était vous qui étiez...
Voilà, nous, on a attaqué au début, on a attaqué un petit peu, mais jamais les syndicats d'auto-école. On a fait que se défendre. Et comme ils sont 6, eux, ils se relayaient. Ils ont attaqué la première fois tous les 6 ensemble, et puis après, ils ont fait, OK, on va faire un par un. Ça coûtera, en tout cas, ça coûtera un peu moins cher, et surtout, ça traînera dans le temps, parce que sinon, on va pas pouvoir les attaquer. Et là, parfois, on reçoit des assignations de justice pour des trucs, c'est lunaire. C'est vraiment pour défendre auprès de leurs adhérents le fait que leur cotisation sert à détruire le méchant ornicard, quoi. Donc voilà. Donc le modèle, je pense, leur faisait peur. Notre communication était pas bonne. On les a un peu.
Mais est-ce que c'est aussi une attaque par les prix, clairement? Aujourd'hui, combien ça coûte? Donc, si on revient à la base du point de vue du consommateur, de l'élève, en fait, ou des élèves, ça coûte combien aujourd'hui de passer son permis avec ornicard?
Alors, si on prend le pack 20 heures, en moyenne en France, il faut plutôt 35 heures, mais on va prendre un pack 20 heures.
Donc chez Ornicard, standard chez tout le monde, on peut comparer.
Exactement. Aujourd'hui, on est à 749 € pour un pack 20 heures chez Ornicard. Quand une auto-école traditionnelle, pour un pack 20 heures, ils sont entre aux alentours de 1200-1250. Je fais vraiment une moyenne nationale.
Et ils te rajoutent 2-3 heures en simulateur qui sert à rien. C'est moi qui le dis.
Ils rajoutent tout ce qu'ils peuvent sur les frais de dossier, etc. Et en fait, il y avait des dérives terrible, mais il n'y avait pas d'alternative, donc elles en ont profité, quoi.
Est-ce qu'on aurait pu imaginer que finalement tu te serves d'ornicard pour remplir leurs espaces disponibles, parce que typiquement
être en marketplace, en fait.
Ouais, 70.
Notre idée, notre toute première idée, avant même qu'on crée la boîte, c'était un logiciel à destination des auto-écoles. Sorte de la fourchette où on leur permettait d'améliorer,
de booker les réservations, gérer les calendriers, etc.
Exactement. Ce à quoi elle nous a répondu, mais vous êtes des petits branleurs d'école de commerce, l'internet et l'auto-école, ça n'a rien à voir. Et cette phrase, je la cite, elle m'a marqué, ça fait quand même quasiment 10 ans, et donc je me suis dit, mais c'est merveilleux. Si vous pensez ça aujourd'hui, alors que finalement 80% de vos clients ont moins de 25 ans, mais on va vous dégommer, quoi, parce qu'on va nous-mêmes être une auto-école. Et alors, si vous êtes persuadé qu'il n'y a pas besoin d'internet dans votre formation, on a de beaux jours devant nous, quoi. Donc voilà.
Il y a des phrases comme ça qui te...
Clairement, celle-ci elle marque.
Non, mais en fait il y a énormément de professions qui se sentent si menacées. Évidemment, on pense bien par Amazon. Nous, quand on lançait Pricemaker il y a très longtemps, on allait voir des libraires et ils voyaient Amazon comme un concurrent et nous leur disaient, mais non, on peut vous amener des clients, en fait, vous allez pouvoir envoyer des livres, des disques, etc. Et le parcours est assez long, effectivement. Ouais. Et du coup, vous avez jamais collaboré avec les syndicats? Est-ce qu'il y avait des voies explorées ou pas?
Avec les syndicats, jamais. Avec quelques auto-écoles. Aujourd'hui, on a quelques auto-écoles qui sont clientes sur notre plateforme pour leurs heures de trou, quoi. Donc elles disent, oui, ça nous paye un peu moins bien chaque heure. Ça nous évite de rien gagner, parce que nous, on a des enseignants qui sont salariés, donc qui travaillent ou qui travaillent pas, moi, je dois verser un salaire. Et ici, je veux dire, c'est que les auto-écoles sont pas, finalement, on voit peu de gérants d'auto-écoles rouler en Ferrari, quoi. Les gérants d'auto-écoles, ils ont du mal à joindre les deux bouts. C'est le modèle qui est mal fait. C'est qu'ils ont des charges liées à l'obligation d'avoir un local, le fait de recourir à des enseignants salariés, etc. Et avoir une capacité d'accueil de clients, parce que le numerus clausus, il est pas sur le nombre d'auto-écoles, mais il est sur le nombre de places d'examen attribuées aux auto-écoles, qui vient limiter leur capacité de croissance. Et nous, c'était notre obsession, c'était il faut contourner ce numerus clausus de place. Quand vous avez un agrément d'auto-école, alors vous avez pris un loyer, ça vous coûte une fortune, on vous dit gentiment, tiens, ton agrément, et tu as le droit à 4 places d'examen par an, par mois. Donc ça fait 4 clients par mois. C'est
pas jouable.
Pas possible. Ouais. Donc forcément, on marche plus sur chaque client qu'on va
prendre. Quand on lance sa boîte, on se demande souvent comment on va générer sa communauté. Donc t'avais certes ta promesse, mais finalement ce combat, c'est ce qui l'a accéléré.
Clairement, aujourd'hui, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, nous, on a surfé beaucoup sur notre communication était actée sur nous, on est les remplaçants des auto-écoles, on est les amis des candidats au permis de conduire. Venez chez vous, chez nous, c'est plus moderne, plus flexible et moins cher.
Ça incitait mieux qu'on ait des petits branleurs d'école de commerce.
Exactement, exactement.
Et est-ce qu'il y a une... Parce que tu parlais d'opportunités de marché, hein, avec 2 milliards d'euros, disons, en évaluant en moyenne la taille du marché multiplié par, enfin, par les prix multipliés par le nombre de candidats. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, à l'opposé, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une attrition du marché, ou est-ce que c'est juste une impression que j'ai? Je n'ai pas regardé les chiffres, pour être honnête, parce que je voulais garder la fraîcheur de ton analyse. Mais bon, maintenant, j'ai des adolescents, on en parlait avant de commencer en séance de studio. J'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui veulent moins passer leur permis de conduire. Est-ce que c'est juste une tendance, parce que la vie urbaine, le vélo arrive, etc., ou le réchauffement climatique, les conditions environnementales ou autres?
Alors, tu as répondu toi-même à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attrition, mais il y a de moins en moins de jeunes qui passent leur permis de conduire. Ce qui fait que la moyenne d'âge...
C'est juste s'ils le passent plus tard.
Exactement. Il y a toujours autant de personnes qui passent leur permis de conduire. Ça suit la démographie. Allez, peut-être un tout petit peu moins que l'évolution démographique, mais vraiment ça se joue
à la marge.
Rien du tout. Mais juste la moyenne d'âge recule. D'accord. Les jeunes sont moins intéressés par le permis de conduire.
Je reviens sur toute cette période. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est toujours un questionnement, les associés, et notamment se séparer d'un associé. C'est... avec le recul, au-delà de comment ça s'est passé, peut-être que vous êtes l'un et l'autre très très transparents sur l'histoire, mais c'est la pression de tous ces procès, de la vision que vous aviez qui risque pas d'arriver suffisamment tôt, qui fait qu'on en arrive là.
Il y a plein de sujets. Je pense que on a fait 2 erreurs. Évidemment, on se voit plus beaucoup. On a fait 2 erreurs. Je pense que, et ça c'est très personnel, mais qu'il faut pas qu'il y ait d'association à 50-50. Je pense qu'il doit y avoir un chef. Ou une chef
qui peut trancher le
qui peut trancher en cas de désaccord. Et là, on était à 50-50, il n'y avait pas de chef. Et donc, je te trouve, même si c'est 49-9 et 51-1, c'est un point qui est important, première chose. Deuxième chose, effectivement, on traversait des mois compliqués parce que les assignations, c'était pas vous risquez qu'on, je sais pas, de payer 1000 euros d'amende, c'était 50 000 euros d'amende, 12 mois de prison ferme, interdiction de monter une boîte parce que c'était exercice illégal de la profession, etc. Bon, c'est une assignation, on sait. On a 24 ans, on n'a pas de clients, pas d'argent. Quand on sort le premier procès, on a beau savoir que les mecs ils chargent la mule en termes de risque.
Oui, c'est jamais agréable.
Mais c'est jamais agréable, quoi. Donc c'est de la pression, voilà. Et donc je pense qu'on supporte pas tous la pression de la même façon. On s'est donc écarté géographiquement. Mon associé de l'époque est parti vivre à Nantes, et donc forcément avec cette distance géographique au lancement d'une boîte, la vision a divergé de façon inévitable jusqu'à un moment où on n'a pas pu trouver de convergence dans nos visions. Sans chef, il a fallu que les investisseurs deviennent les décideurs et finalement ce juge de paix qui dit ok, bah, c'est la vision le CEO 1 ou le CEO 2, mais il faut qu'on tranche parce que les deux n'arrivent plus à travailler ensemble.
Il y a beaucoup de boîtes qui plantent justement pour des questions de divergence entre associés. Qu'est-ce qui fait que Ornicard est toujours là?
On aurait dû planter. Très honnêtement, on aurait dû planter s'il n'y avait pas eu Flavien, qui est mon associé d'aujourd'hui, et qui était le premier salarié de la boîte. Et parce que émotionnellement, c'est quasiment ce que j'ai vécu de plus difficile, la rupture avec un associé. On se connaissait bien, etc. Donc c'était très compliqué. Parce que ça a été douloureux, ça n'a pas été...
On associe souvent ça au mariage.
Ouais, exactement. Donc, c'était vraiment compliqué. Et donc, Flavien a dit, je choisis plutôt la vision de Benjamin. Je suis sûr qu'on peut faire des choses super, etc. Et donc, il m'a redonné toute l'énergie. Il a travaillé énormément. C'est quelqu'un d'extrêmement fort et brillant. Et c'est lui qui m'a aidé et qui a reconstruit Ornicard après cette espèce de d'ouragan de 2 ans et demi de procès, plus une séparation d'associés, plus évidemment on avait quasiment cramé, sinon ce serait pas marrant, toute la première levée de fonds qu'on avait faite, quoi. Donc les investisseurs,
comment on va chercher les seconds du coup pour le deuxième tour de table?
On galère parce que les investisseurs nous disent ok, bon bah on va choisir Benjamin et Flavien pour reprendre, mais en revanche on vous donnera pas d'argent, quoi. Je dis oui, mais ça, alors moi c'était pas du tout prévu ça. Moi je vous ai présenté un plan, il y avait de l'argent qui allait avec. Ils me disent non, ils ont sorti une blague à l'époque, enfin ils étaient tous rigolaient tous autour de la table, ce qui me faisait moyen rire, maintenant je la comprends mieux, mais en disant vous verrez, tu verras, sans argent on prend des bien meilleures décisions. Et donc effectivement c'est ce qui s'est passé, ils nous ont pas donné d'argent, et là ça a été on avait 3 mois de cash devant nous, donc en avril on pouvait plus payer les salaires, et en fait on prend des bien meilleures décisions.
Alors, c'est quoi les décisions?
Les décisions, c'est qu'on avait plus peur de rien, on a menacé tout ce qu'il fallait, c'est l'agrément, chose qu'on avait toujours pas. Et donc là on s'est mis à faire attention, on a fait des menaces à peu près à tout le monde pour dire notre dossier est complet, notre dossier est conforme, il faut qu'on nous donne l'agrément. Et donc à l'époque on avait touché un prêt BPI 500 000 euros qui étaient souvent adossés à une levée de fonds, donc la première levée de fonds. Donc vous avez le ministère de l'économie qui vous accorde un prêt, c'était pas le même gouvernement, je préviens, hein, qui vous accorde un prêt BPI de 500 000 euros, puis en face de ça, vous avez le même gouvernement, mais un autre ministère, qui dit, bah, Ornica, il n'aura pas d'agrément. Donc, d'un côté, on vous donne 500 000 euros, c'est de l'argent des Français quand même, hein, l'argent de BPI, et puis d'un autre côté, on vous empêche d'exercer. Donc forcément, vous cramez ces 500 000 euros à ne rien faire, c'est vraiment jeté par la fenêtre, quoi. Et donc là, vu qu'on avait déjà démontré notre capacité à être présent dans les médias, on a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment que tout le monde soit au courant que la BPI finance et l'intérieur bloque, quoi? Je pense pas que les médias soient vraiment... en tout cas, les Français soient ravis d'entendre ça. Et bizarrement, deux semaines plus tard, on a obtenu notre agrément. Et voilà. Donc c'est une histoire qui est...
Rapport de force.
Ouais, qui est un rapport de force qui, au bout d'un moment... Trop, pour la vulgarité, mais trop bon, trop con. Et là, on s'est dit, bon, on va arrêter d'être bon. Et je me souviens tout le temps, moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté cet événement. C'était un de nos conseillers qui était là à cette réunion avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui a dit, mais je crois pas, on a travaillé sur des projets d'évolution législative pour donner du cadre à la concurrence, enfin, ouvrir le cadre pour la concurrence des auto-écoles. Et ils ont toujours parlé d'agrément, mais il n'était pas au courant. Il était ministre de l'économie à l'époque. Hein. Et là, il prend son téléphone, il appelle Bernard Cazeneuve et il dit, mais je crois pas le dossier Ornicard, donc apparemment Cazeneuve un peu emmerdé au bout du fil, dit ouais non mais tu sais c'est compliqué, c'est auto-école, etc. Et là Macron aurait dit il est hors de question que l'administration régule l'économie. À partir du moment où le dossier est conforme à la réglementation, on laisse la concurrence se faire. Et deux semaines plus tard, on avait notre agrément le 31 mars 2016. Voilà.
Après trois ans.
Exactement.
Un peu patience long. Et longueur de temps font plus que force ni que rage, même s'il a un petit coup de force et un coup de rage.
On était vraiment à poil, quoi.
On a évoqué rapidement les différents modèles par lesquels vous êtes passé. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas marché du tout, d'autres qui ont été pour le coup particulièrement porteurs?
Alors, là aussi, donc, pendant ces deux ans et demi, on n'a pas regardé notre montre en attendant que le temps passe, quoi. Donc, on s'est rendu compte que le code de la route, on pouvait le faire sans l'obtention d'agrément. Donc, on dit, OK, on va lancer notre offre code de la route. Aujourd'hui, vous avez des éditeurs que tout le monde connaît, des grands éditeurs de code de la route. Je ne dirai pas leur nom, mais vous achetez un livre de code de la route, c'est souvent, il y en a deux ou trois. Et voilà. Et donc, on va voir ces éditeurs. Et puis, on leur dit, bon, bah, comme toutes les auto-écoles de France, on dit, bah, on va vous acheter votre solution, puis on va
et
la
les
revendre.
Distribuer, ouais.
Et voilà, distribuer. Et là, non. Non et non. Donc trois noms, trois éditeurs, trois noms, plus de possibilités. En disant, en fait, on a reçu un courrier des auto-écoles traditionnelles. Le premier qui bouge avec vous, donc avec Ornica,
il perd son chiffre d'affaires
avec les auto-écoles traditionnelles. Donc ils disent, bah nous on peut pas, c'est trop risqué, etc.
On peut les comprendre.
Ah non, je peux les comprendre. Évidemment, je les ai attaqués hein, pour refus de vente. Ce à quoi après, ça s'est débloqué. Néanmoins, nous en parallèle, j'avais fait deux pistes, quoi. Je les attaque
et je crée mon truc de mon côté.
Et on a créé le truc de notre côté. On a mis des enseignants dans la voiture et on a dit, bah allez, c'est parti. Prenez les photos, questions de code. Et on a sorti nos premières questions de code comme ça. Et donc on sort nos questions de code. On est en mars 2015, donc on est six mois après la levée de fonds et on a nos premiers clients, nos premiers euros de chiffre d'affaires. Mais on est une auto-école en ligne. Et donc ce qui devait arriver. On a des clients qui viennent nous voir et qui disent bah, j'ai mon code de la route, maintenant je vais passer à la conduite. On dit bah non, mais ça on n'a pas d'agrément, on n'a pas le droit. Et ils nous disent bah.
Et en face, les auto-écoles veulent parfois pas prendre quelqu'un qui a son code.
Exactement. Ouais. Et donc là, ça sentait à plein nez le bad buzz. En disant mais moi, les auto-écoles me refusent parce que j'ai passé mon code avec Ornicard et donc ils veulent marquer le coup et ils ont dit non. 1, 2, 3, 10, 20, 30 clients. Je dis oulala, ça se sent pas bon. Et donc on n'a plus le choix. Et sinon, quand on n'a plus le choix et quand on est au pied du mur, bah, on prend les décision. Et donc là, on réanalyse un peu les textes réglementaires. Donc moi, j'apprends par cœur les articles de loi du code de la route, pas version code de la route, les questions de code, mais version code pénal, quoi, le code de la route. Et je me rends compte, avec notre avocat de l'époque et Flavien, etc., mais on se rend compte que finalement, l'agrément auto-école sert à se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Ok, c'est la base de la loi. C'est pour se faire rémunérer pour l'enseignement de la conduite, il faut avoir un agrément. Et donc on dit, bah très bien, ne nous faisons pas rémunérer pour l'enseignement de la conduite. Donc, nos enseignants, on leur dit, bah vous allez proposer une formation à titre gracieuse. Donc vous n'allez pas vous faire payer pour ça. Évidemment, on a une solution pour vous faire payer. On dit, bah vous n'allez pas vous faire payer pour l'enseignement de la conduite, mais vous allez vous faire payer pour la location de votre véhicule à double commande. Donc vous allez changer vos statuts, vous n'allez plus être enseignant de la conduite, mais loueur de véhicule à double commande.
Ah là là.
Et donc, on lance notre offre conduite avec une baseline qui aujourd'hui n'a aucun sens, mais on dit on est la première plateforme de location de véhicules à double commande avec prestation d'assainissement de la conduite à titre non onéreux.
Donc, c'est malin.
Ça, c'est un gros pivot, mais voilà. Ce qui était important, c'était qu'on mette le pied dans la porte. Parce qu'aujourd'hui, ils nous refusaient l'agrément parce que ça leur coûtait rien. Donc là, on met le pied dans la porte. Donc, on est backé par ce modèle-là. On fait 4 JT en une semaine, septembre 2015.
Où t'assumes le côté un peu malin.
Bah, j'ai des trainings de communication pour bien expliquer aux journalistes ce qu'on fait, parce que c'est quand même tricky. Mais on s'en fiche, on y va, 1er septembre, enfin début septembre 2015, et on communique. Et alors là,
réglementairement, quand tu loues la voiture, en tant que, du coup, c'est le client qui loue la voiture, ouais. Il ne doit pas justifier d'avoir passé quand même des cours.
Non, il est en candidat libre.
Avant de passer, il peut être en candidat libre, ouais, sans forcément avoir le pack de 20 heures, ou etc.
Exactement. Exactement.
Ça n'a pas, il n'y a pas de réglementation qui impose une durée minimum.
Il y a 20 heures pour les candidats auto-école. Et il y a zéro heure pour les candidats libres. Et
donc, ouais, t'avais des boîtes qui s'étaient lancées juste sur,
ouais,
la location,
exactement,
à double pédale. C'est la première fois que j'ai conduit, moi, c'était
sur une voiture à double pédale. Ouais, voilà. Ouais. Sauf que nous, t'avais
sur la place de l'étoile, c'est comme ça.
Ouais. Et lui, t'avais toujours l'enseignant à côté. Et voilà. Et donc là, on met le pied à la porte. Évidemment, tout le monde hallucine, hein, que ce soit les politiques, l'administration, les syndicats, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, je leur ai pas donné l'agrément et ils sont fous, ils sont bêtes, quoi. Mmh. Et donc, on y va et on met ce pied dans la porte. Et là, on vend des heures de conduite. Beaucoup, 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 beaucoup d'heures de conduite. Et donc, finalement, très vite, on a appliqué le too big to fail, quoi. Donc maintenant, ils pouvaient plus nous retirer l'agrément en claquant des doigts. S'ils retiraient l'agrément, fallait donc qu'ils justifient pourquoi ils retirent l'agrément. Donc peut-être qu'on n'était pas conforme, mais donc nous, on aurait dit, mais l'autre dossier, la demande de dossier, elle en est où? Parce que celle-ci, elle est conforme. Et donc, en fait, on a mis le doigt dans un engrenage où ils ne pouvaient plus, finalement, nous retirer, enfin, nous
ça,
attaquer.
Ça, c'était avant l'appel de Macron à Cazeneuve.
Ouais, ça, ouais, c'était avant on était toujours en cette phase sans agrément. Et après, bon, on s'est fait attaquer en justice par les syndicats. Alors, pour le coup, la justice est toujours lente, sauf quand ça nous arrange pas. Et donc là, en 3 mois, on prend un abus de droit. Et donc, en fait, ça s'appelle un abus de droit. Vous prenez plusieurs bouts de texte de loi et puis vous en faites votre propre sauce. C'est un abus de droit. Et donc, abus de droit. Et donc, on doit changer. Et donc là, on est en décembre 2015. On reçoit cette défaite de procès. Alors, pour vous, c'est moins la fête parce que tous les journaux titrent, c'est la mort de l'auto-école en ligne Ornica, blablabla. 2 jours plus tard, on se brouille avec mon associé de l'époque. Et donc, janvier 2015, pas ouf. Ouais, voilà, clairement. Là, j'étais à terre. Et heureusement, on reprend la boîte avec mon associé. On dit ok, on va redemander un agrément parce que là, on était à Paris. Et donc là, on fait voyez Obélix qui essaye de choper de la potion magique, qui fait la queue déguisée avec un casque. Et ben là, on prend notre nom. On s'appelle Ornicar Raison Sociale. On dit ok, on change. On s'appelle Marine Formation. Et on va pas demander à Paris. On va demander à Nantes. Et donc Marianne Formation va demander un agrément à Nantes. Mais trop content de notre trouvaille, on se dit mais on est vraiment des génies. On dépose le dossier. 1 heure plus tard, mon téléphone sonne en disant mais Monsieur Guignoux, vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas vous reconnaître? Et donc évidemment, on sait que c'est
Ornicar. Obélix.
c'est vraiment Obélix qui essaye de prendre de la soupe, de la potion magique. Et donc on se fait griller. Bon bref, et là pour le coup, on a plus le choix. Donc c'est là où on commence à sortir les crocs et à mordre tout le monde.
À un moment, tous ces conducteurs, du coup, qui réalisaient leurs prestations gratuitement en échange de la location de leur véhicule, est-ce qu'à un moment quand même dans toutes ces phases-là, t'as une déperdition aussi. Enfin, certains peut-être se...
Ah non, évidemment. Enfin, évidemment que là, on n'était pas là pour faire énormément de volume. On était là pour mettre le pied dans la porte, quoi, pour montrer qu'on existait, pour répondre aux élèves qui nous disent « Mais moi, j'ai mon code et je ne peux plus passer en autre école. Je fais comment ?» Là, on leur dit « Bah voilà, on a cette solution. Bon, » c'est tout à fait légal. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et en fait, ça ne l'était pas tout à fait, quoi. Donc voilà, l'idée, c'était... de courir vers ce too big to fail le plus vite possible, quoi. Parce que sinon, ils allaient finir par nous tuer. C'était le plus important. Il fallait qu'on soit intuable pour l'administration.
D'autres modèles testés?
Non, écoute, celui-là principalement. Aujourd'hui, on va tester des nouveaux modèles de pricing, etc., pour la partie code de la route. Mais sinon, intrinsèquement, notre modèle n'a pas beaucoup changé. Voilà.
Eh ben, super transition. Enfin, c'est toujours un sujet, ça, le pricing.
Ouais.
C'est quoi les débats pour aboutir à ce que vous allez proposer dans quelques jours, quelques
semaines? C'est la croissance. Il n'y a pas de débat, en fait, c'était data. Et nous, ça fait partie de notre culture code. C'est-à-dire que we follow data. C'est-à-dire que on va arrêter de se baser sur des intuitions. Quand on voit que la croissance s'aplanit, ou on respecte pas les courbes de croissance qu'on avait prévues, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il suffit de regarder sur Internet. Quand on a des concurrents qui sont mis moins chers ou gratuits, bah, on sait où est le problème, quoi. Aller courir un sprint avec un boulet à la patte qui est un prix plus cher que nos concurrents, c'est pas possible, quoi. Et ça, voilà, dans le livre des erreurs que je suis en train de rédiger dans ma tête, de choses qu'on a faites avec mon associé et mes associés, ça fait partie de ce sujet-là. Persuadé que la valeur perçue va permettre d'aller vendre un service plus cher, c'est pas loin d'être du bullshit.
Mais alors, tu peux jamais rivaliser avec un concurrent qui est gratuit.
Tu peux jamais rivaliser.
Alors, je dis ça, a priori si, mais si tu penses prix, à un moment ça.
Bah, tu peux penser gratuit, mais derrière, faut savoir quels sont tes KPI, quoi. Ouais. Typiquement, nous, il y a le nombre d'élèves sur le code de la route, et puis il y a le nombre de gens qui passent le code de la route. Et donc le but, c'est de leur créer de la motivation et de l'engagement. Et ce qui est certain, c'est se faire prélever ne serait-ce que de 1 ou 2 euros par mois, ça crée de facto un engagement d'utilisation. Quand c'est gratuit. Il est pas pressé, quoi. Donc voilà, donc c'est bon. Ça, c'est des sujets qui sont évidemment hautement stratégiques pour nous. Mmh. Mais comment on décide de changer de prix? C'est quand les courbes font plus qu'on a envie qu'elles font, qu'elles fassent, quoi, pardon. On s'adapte, on réagit, on est agile, quoi. Il faut pas qu'on perde ça, même si maintenant la boîte c'est 275 personnes. Il faut pas perdre de vue cette agilité, quoi. Donc, et quand on dit, non, mais changer les prix, ça va prendre, je n'ai pas plaisanté ou quoi. On change les prix rapidement, quoi. Il faut réagir. Et là, on a recruté, donc une des nouveautés, on a recruté un super nouveau CEO. Donc, on a 2 business units, une partie éducation auto-école et une partie assurance. À chaque fois, l'échelle européenne, bon, on est juste en Espagne sur l'éducation, mais on reviendra après dessus. Mais on a recruté un CEO éducation, Nicolas, qui vient de chez McKinsey, puis Jumia, qui a l'idée des opérations de Jumia en partie en Afrique, et qui est arrivé, qui fait pas dans la dentelle, quoi, et qui nous a mis une claque, en fait, en disant, mais les gars, mais on est plus cher que les concurrents, il n'y a pas de raison, donc maintenant il faut qu'on travaille là-dessus, etc. Donc voilà comment on prend ces décisions-là. On est là pour jouer, on est là pour gagner, on veut bouffer le marché, on veut rayonner à l'échelle européenne et mondiale, et donc il faut qu'on commence par bien faire nos devoirs sur notre pays, quoi.
Vous n'avez pas pensé à un moment donné, finalement, que ça puisse être complètement gratuit, mais peut-être financé différemment? C'est un peu l'histoire du freemium aussi, enfin en général, ouais, dans beaucoup d'autres marchés.
Tous ces sujets-là sont clés.
L'accélérateur est gratuit, mais le frein est payant.
Exactement. En fait, il faut pouvoir les tester. Mais ces décisions de changement de prix sont des décisions relativement récentes, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais on sera très souple, très agile, parce que aujourd'hui, on a maintenant enfin ces sujets très stratégiques. Donc, si mon board entend, il écoutera peut-être, il aura peut-être des infos qu'il n'avait pas jusque-là. Mais on est en train de trouver on a la preuve qu'on a trouvé du signal dans la partie code de la route, enfin éducation auto-école, pour pouvoir pricer le risque d'assurance. Et ça, c'est très important, parce que le problème d'un assureur, c'est qu'il ne sait pas pricer un jeune conducteur parce qu'il n'a pas d'historique de conducteur. C'est un jeune conducteur.
C'est-à-dire que juste dès le code de la route, tu peux voir qu'en fonction des erreurs que l'apprenti fait, ouais, potentiellement il est à risque ou...
Exactement. C'est la façon dont il apprend à conduire. Dans sa globalité, la théorie et la pratique donnent des indications fortes sur quel type de conducteur il va être. Voilà. Bon, tout ça, c'est des sujets hyper stratégiques pour nous et qui sont au cœur de nos réflexions, quoi.
Eh ben, c'est une transition parfaite pour la question de Anne. Ta fin de Madinès, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour. Vous vous êtes lancé comme courtier en assurance auto en 2020, mais vous ambitionnez de devenir assureur, ce qui constitue un grand chantier. Pourquoi est-ce important pour vous d'obtenir ce statut alors qu'il est long, coûteux et complexe à obtenir?
Très bonne question. Alors, entre plusieurs éléments de réponse, entre la communication de cette ambition et aujourd'hui, il y a eu un gros changement chez Ornicar. Comme aujourd'hui, notre rôle avec mon associé, c'est de trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit au bon moment. On a également changé de CEO, enfin pas changé, on a recruté un CEO assurance. Et donc cette personne, Philippe, qui était l'ancien dirigeant de MMA et Aviva, une grosse...
Bien trouvé.
Ouais, grosse expérience dans l'assurance, est venu un tout petit peu challenger aussi cette vision. Nous, historiquement, on s'est dit, OK, on veut être assureur parce qu'on veut disrupter le monde de l'assurance auto sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la souscription à la gestion de sinistre, etc. Et donc, on veut le faire en trouvant une donnée qui est particulièrement pertinente pour mieux pricer le risque, à savoir avoir des ratios techniques, avoir une rentabilité en fonction de primes sur sinistre qui est supérieure à celle du marché. Ça serait quand même dommage si on trouve la magic sauce qui nous permet de mieux pricer le risque et de mieux anticiper l'accidentologie de nos clients, que ça soit un assureur tiers qui en profite à la fin. Mais ce qu'on ignore moins avec l'arrivée de Philippe, c'est la complexité et la lourdeur de tous les process quand on est assureur. Donc aujourd'hui, on veut être pas courtier, on veut passer à l'étape d'après. Donc ça s'appelle MGS, c'est Manager German de, bon, je sais plus exactement, assurance. Enfin bref, c'est tout comme un assureur, sauf qu'on porte pas le risque à la fin.
Donc, vous devez avoir un partenaire assureur qui le porte, c'est ça?
Ou un réassureur.
Ou un réassureur.
Ouais, exactement. Mais c'est-à-dire qu'on gère la souscription, la gestion de sinistre.
Il y avait déjà des concurrents sur le sujet. Donc, la DIF, c'est justement cette capacité à, avec la data, à maîtriser le risque.
Alors, la différence, évidemment, ça c'est...
Et une data qu'ils n'ont pas pour le coup, et là vous êtes les seuls...
Exactement, ça c'est la grande différence pour le jeune conducteur. Une des autres grosses différences que Ornicar a par rapport à d'autres, c'est la marque. On a dépensé des milliers, voire des millions d'euros pour créer une image de marque forte. Ornicar aujourd'hui, en termes de notoriété, tout ce qu'on peut faire comme études, etc., montre qu'on est extrêmement bien situé sur toutes les personnes qui sont soit les jeunes, soit les parents qui sont les financeurs du permis de conduire. Et donc ça, c'est un atout formidable pour pouvoir disrupter un nouveau marché et pénétrer un nouveau marché de façon hyper rapide. La marque, la donnée, et le fait que le jeune conducteur, on connaît à peu près tout sur lui. On sait qu'il va avoir besoin d'une assurance parce qu'il est en formation chez nous. Quoi.
Et du coup, ça veut dire, j'essaie de projeter, mais seuls ceux qui du coup ont un meilleur rapport entre le prix et le risque de... Je connais pas tous les mots de votre métier, mais globalement, est-ce qu'il n'y a pas que ceux qui ont du coup un bon prix parce que vous avez les bonnes datas sur eux qui viennent chez vous?
Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de jamais être assuré, du coup, s'il y a le comportement blacklist par la data,
chez eux, chez vous.
L'idée d'un assureur, s'il veut être performant, c'est qu'il faut essayer d'écarter les risques, les mauvais risques, qu'on appelle les mauvais risques, ou en tout cas, pas forcément les écarter, mais les pricer en fonction. Une personne qu'on a jugée comme étant plus à risque, peut-être qu'il faut effectivement appliquer un tarif un peu différent.
Et elle ira pas chez toi parce qu'à côté on lui propose.
Exactement. Mais en fait, je pense que ce qui est important, parce que là, il y a eu une espèce d'euphorie 18 mois sur les insurtech. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que il y a eu des histoires pas très réjouissantes, notamment aux États-Unis, sur des insurtech qui ont confondu croissance et croissance saine. L'assurance, on vend pas une paire de chaussures, quoi. C'est-à-dire que moi, si je fais de la croissance day one, là, enfin, on va dire au mois de, on est quoi, mai, je peux faire une très belle croissance en mettant des prix pas trop chers, etc. Le problème, c'est
ça
que...
Ça se mesure 2-3 ans après.
Exactement. Ouais. Le risque, il vient commencer à me grignoter les fesses 3 ans après et vient attaquer ma rentabilité, etc. Donc, si j'ai souscrit du mauvais risque pendant 2, 3, 4 ans, j'ai pris un risque qui est colossal, quoi. Et si on prend l'exemple d'une grosse boîte américaine qui s'appelle Roots Insurance, qui a été quand même introduit en IPO à 6 milliards après 4 ans d'activité, donc bon, incroyable. Aujourd'hui, je crois qu'elle vaut entre 1 et 2 milliards, pour la simple bonne raison qu'entre l'introduction en bourse et aujourd'hui, il y a les ratios techniques qui sont tombés. Et à faire de l'assurance...
Il y a eu beaucoup de sinistralité, du coup,
il y a eu beaucoup de sinistralité. Il y a eu surtout des tarifs qui n'étaient pas adaptés au profil de risque de leur conducteur, quoi. Proposer donc, des réductions, c'est facile. Après, d'ailleurs,
est-ce que exploiter la data pour faire du pricing de cette façon-là, est-ce que ça demande des autorisations particulières en termes de privacy?
Bien sûr. Tout ça, c'est évidemment cadré par une équipe légale, etc. De toute façon, une personne doit savoir quand vous êtes investi par KKR, on rigole pas avec ces sujets-là. On rigole jamais, mais encore moins
encore moins
quand vous avez KKR derrière, quoi.
Du coup, avec l'arrivée de ce nouveau CEO sur l'assurance, vous avez revu le modèle. Ouais. Comment on entraîne des profils comme celui-ci? On les associe au capital?
Alors, oui, carrément. Évidemment, on les associe au capital. Et déjà, comment on rencontre? Alors,
ça, comment on va les chercher?
Ça, c'est aussi le rôle, enfin, en tout cas, en l'occurrence, c'était le rôle aussi de nos actionnaires, notre board, notamment ce Philippe. On l'a rencontré par l'intermédiaire de KKR. Notre idée de départ, c'était de demander à Philippe de nous accompagner en tant que board member, ce qui restait deux places en tant que board member indépendant. Et donc, finalement, on s'est dit, mais ça peut être un super profil pour nous apporter tous ces insights sur l'assurance. Comment on fait de l'assurance? C'est, en fait, c'est un vrai métier, l'assurance, quoi. Après, je pense que c'est du fit humain. Donc, moi, j'ai déjeuné avec lui en octobre et je lui raconte en disant, mais voilà notre vision, etc. Et à la fin, est-ce que vous seriez intéressé pour nous accompagner en tant que board member? Ce à quoi il me répond non. Il me dit, moi, board member, ça ne m'intéresse pas. En revanche, défoncer le marché de l'assurance auto en étant le responsable opérationnel de ce projet, c'est avec grand plaisir, quoi. Ça fait très longtemps que j'ai envie de dépoussiérer ce système-là, que je sais exactement ce qu'il faut faire et que vous avez les atouts qui sont indispensables et primordiaux pour pouvoir attaquer ce marché, à savoir la marque et l'accès à un segment. Peu importe le segment, mais vous avez accès à un segment, celui des jeunes. Et là, la vie d'Ornicard a changé, et encore plus celle de Ornicard Assurance. Et voilà. Et donc maintenant, la collaboration entre ce nouveau CEO et le General Manager, qui est Damien, fait des étincelles et permet à Ornicard de changer de catégorie. En tout cas, Ornicard Assurance de changer de catégorie.
Ça m'amène à plein de questions. Tu évoquais le board. Donc, on a bien conscience de l'intérêt du board. Est-ce qu'il y a des limites au board et à ce qu'on peut en attendre des fois en tant qu'entrepreneur? On se pose plein de questions sur comment on constitue le bon board et puisque finalement on leur demande pas trop ou peut-être pas assez.
Alors, moi je suis redevable de mes actionnaires parce qu'ils m'ont apporté les fonds nous permettant d'arriver à cette étape de croissance. Je n'attends rien d'autre de mon board. Je sais que je prends des risques, mais je n'attends rien d'autre de mon board que leur argent. Et c'est triste, et c'est peut-être pas une bonne chose. Mais en attendant plus, j'ai toujours été un peu déçu. Et je pense que les board members, qui sont les gens qui travaillent dans les fonds, gèrent énormément de boîtes. Et donc on pas toujours le niveau de connaissances nécessaires sur nos problématiques très business opérationnelles pour pouvoir nous apporter l'éclairage qu'il faut. Donc voilà,
on va dire l'intérêt des indépendants.
Tout l'intérêt des indépendants, les indépendants, on les onboard surtout pour un sujet d'expertise technique. Aujourd'hui, j'attends rien d'eux. En revanche, ils nous permettent aussi de lever un peu la tête en disant « Regardez, est-ce que vous prenez la bonne décision ?» etc. Donc, c'est plutôt qui nous apportent comme ça. Ils nous apportent leur réseau. J'ai aucune attente du board quand je les fais rentrer.
Tu as parlé des CEO, de General Manager. Toi, ton rôle, du coup, est celui de ton associé, ouais.
En fait,
parce que ça a évolué forcément au fil du temps.
Parce qu'il y a deux CEO, alors du coup, c'est ça. Il y a un CEO sur l'assurance et un
CEO éducation.
Et donc, c'est des business units dans le sens où c'est des entreprises différentes?
Non, enfin, c'est des entités différentes qui appartiennent toutes au même groupe, quoi.
Et donc, tu as un General Manager Group?
Non, ça pour le coup,
c'était ma question. C'est ça que j'avais pas entendu. Ouais.
C'est nous qui assurons cette fonction-là. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'est composé. On a un COMEX de 4 personnes, les 2 CEO et les 2 cofondateurs. Et nous, on travaille sur créer les ponts, être sûr que les ponts soient bien faits entre les 2 business units et avec un accent tout particulier de mon associé Flavien sur people, organisation. On travaille sur la méthode des OKR, etc. Et donc tout ça, ça demande un peu de travail.
Pour ceux qui connaissent pas.
Objective and Key Result, qui est une façon de travailler qui permet à l'ensemble des équipes d'être alignées sur des objectifs clairs, qui sont connus de tous. Et nous, on a mis un rythme de trimestriel. Donc tous les trimestres, ça permet... Notre objectif, c'est que les équipes sachent ce pourquoi elles travaillent et quel est leur impact dans l'organisation en permanence. Aujourd'hui, 6 mois, c'est trop long. 1 mois, c'est évidemment trop court. 12 mois, j'en parle pas, c'est encore trop long. Donc, pour l'instant, au trimestre, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça permet à chacun de savoir au trimestre quelles sont ses missions, ses achievements et quels sont les résultats qui permettent de savoir si oui ou non ces objectifs ont été atteints. Et donc, c'est un bon alignement.
Tu as parlé de l'assurance. J'imagine que c'est des questions que vous êtes posées. Est-ce qu'il y a d'autres verticales possibles, d'autres évolutions possibles pour Ornicard?
Évidemment. Moi, je suis, et je pense que Flavien aussi, et les deux CEO aussi, nous sommes très opportunistes. Et qu'on veut faire d'Ornicar une boîte qui a un impact énorme sur la mobilité. Moi, je vois Ornicar comme un... En fait, je m'éclate, quoi. Je m'éclate. J'ai plus peur de mourir avec Ornicar.
Tu parles de la boîte.
Je parle de la boîte.
Ça n'a pas changé ton rapport à la mort.
Ça n'a pas changé le rapport à la mort, mais je pense que pour construire des énormes boîtes, il faut prendre des énormes risques. Et que aujourd'hui, peut-être qu'un jour, on ira sur d'autres secteurs d'activité, etc. Le fait est qu'on veut évidemment avoir l'impact le plus gros possible pour l'instant sur le driving. Donc notre mission, c'est faire du driving une expérience sûre et positive pour tout le monde. Donc ça, c'est la mission d'Ornicar. Mais peut-être qu'un jour, on dérivera vers d'autres sujets assurantiels, d'éducation, je sais pas.
Je pense que tu sais, mais que tu veux pas dire.
C'est un peu tôt. On a encore un peu de travail sur nos deux core business aujourd'hui, mais évidemment qu'on a des pistes, ouais.
Et nous, on aime bien se projeter un peu dans le monde d'après, si on regarde le marché en tant que tel, finalement, tu disais qu'il y avait pas moins de candidats, peut-être un peu plus âgés, mais est-ce que du coup ça donne des perspectives différentes sur l'évolution, pas tant de l'appétence pour le permis de conduire, mais de l'appétence pour la mobilité, les autres formes de mobilité? Ça pourrait être, je dis n'importe quoi, mais est-ce que vous avez pensé au permis poids lourd, au permis, à tous les autres permis, y compris moto, ou pourquoi pas bateau ou autre? Ou alors est-ce que c'est plutôt l'expansion internationale? Enfin, quand on regarde, même sans révéler les plans les plus secrets, où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités de marché, pour reprendre ton terme?
Aujourd'hui, donc ça va être, on a recruté un nouveau CEO éducation, donc ça fait évidemment partie intégrante de sa mission. On prend pas quelqu'un qui a autant d'expérience et qui est si fort pour lui dire exactement ce qu'il doit faire. Comme on est opportuniste, on n'ira pas développer le permis de trottinette au Luxembourg parce que la taille de marché et l'opportunité n'est pas assez grosse. Voilà, donc aujourd'hui, le permis poids lourd, ça nous paraît pas, pour l'instant, en mai 2022, être une opportunité suffisamment importante. Le permis moto, il y a des complexités opérationnelles pour venir au point de rendez-vous avec deux motos, quoi, une moto pour le pilote et une moto pour le prof.
Et la moto à double pédale, pas encore.
Pas encore, il faudrait faire sur un sidecar, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, l'opportunité pour nous, c'est se servir de l'éducation pour améliorer le comportement sur la route des jeunes conducteurs et des moins jeunes conducteurs. Voilà, ça c'est vraiment la clé, et le faire dans un maximum de pays européens pour commencer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une scène de passeportage des autorisations d'être un opérateur dans l'assurance à l'échelle européenne.
T'évoques la mission, t'évoques la vision et l'ambition aussi. On a justement une question de quelqu'un que tu connais très bien, tu pourrais nous dire qui c'est.
Vous avez un message.
Salut Benjamin, d'abord je voulais te dire que c'est un grand plaisir de travailler à tes côtés depuis de nombreuses années maintenant. Et j'aimerais donc en profiter pour te poser une question sur une des forces d'Ornicar aujourd'hui, c'est vraiment la puissance et la force de la marque Ornicar. Donc ça fait pourtant maintenant 10 ans, ou quasiment 10 ans qu'Ornicar existe. Il y a beaucoup de startups qui se créent puis qui perdent un peu en momentum, qui perdent un peu en force de la marque justement au fur et à mesure des années, ça ne devient plus des startups. Aujourd'hui, Ornicar, c'est une des marques très fortes dans l'écosystème scale-up, et vous avez réussi à maintenir justement ce rayonnement, à la fois auprès des consommateurs, mais aussi une grosse marque employeur, auprès des employés d'Ornicar. Et donc je voulais savoir, au fur et à mesure de ces années, et sur des temps longs, comment on fait pour garder ce momentum dans le marché, comment on fait pour garder une marque justement qui rayonne, qui devient de plus en plus forte, sans perdre la fraîcheur du début?
Qui c'est?
C'est Jonathan Uzurovici, ou Uzurovici.
Un de tes investisseurs.
Un de mes investisseurs qui investit quand il était chez Ininvest et qui est aujourd'hui un des board members indépendants d'Ornicar. J'attends pas grand chose de mes investisseurs, parce que déjà leur argent, c'est formidable. Néanmoins, Jonathan m'a apporté bien plus que l'argent d'Ininvest. Nous a apporté bien plus que l'argent d'Ininvest, qu'il a été toujours de très bons conseils. Et bon, pour ça, je le remercie. Et il a vraiment beaucoup participé et contribué à où on en est aujourd'hui avec Ornicar. Pour répondre à sa question, en fait, c'est je pense que ce qui a aidé, c'est déjà le travail de toute l'équipe, quoi. Nous, Ornicar, on a eu des équipes qui étaient évidemment hyper engagées, sur lesquelles on a beaucoup travaillé pour pouvoir attirer les bons profils, les garder, etc. Surtout leur donner envie de se battre pour Ornicar et de proposer des solutions pour justement animer la marque, etc. Donc ça a été un point important. Je pense que la diversification, ça permet de faire parler d'Ornicar, donc de lancer dans l'assurance auto, ça permet de continuer,
de redonner un peu
exactement,
de vie,
hein. Exactement à Ornicar. Et puis on essaye avec mon associé d'incarner la marque au plus en faisant des super podcasts, en faisant des interviews, des interventions dans différents événements, etc. Et ça, c'est un sujet où en tout cas c'est un sujet que je prends évidemment très à cœur, et en essayant d'être c'est toujours très pompeux, mais essayer d'être un peu moins, enfin pas trop rébarbatif, un peu inspirant, un peu
pas bullshit.
Bullshit, mais tout en étant conscient de l'être, quoi. Nous, Ornicar, je devais vous sortir la nouvelle vision que j'ai pour Ornicar, ambition, c'est il a été décidé que entre les dirigeants européens qu'il devait y avoir d'ici 2030 10 boîtes qui valent plus de 100 milliards. Ornicar sera une de ces boîtes-là. Pour valoir plus de 100 milliards, il faut changer le monde. Donc comment on fait pour changer le monde? Et pour changer le monde, on permet aux gens de ne plus se tuer sur la route. C'est en Ornicar, on est la première solution qui permet aux gens de dire, ok, toi, si tu prends ta bagnole à cette heure-là, sur cette route-là, avec ces conditions-là, etc., tu as 98,9% de louper ce virage-là et de te prendre le platane. Donc, soit tu prends un taxi, soit tu prends plutôt cette voie-là, ce machin, etc. C'est un exemple. Et avec ça, on pourra dire, si on arrive à rayonner avec cette offre-là dans le monde entier, qu'on vendra 100 milliards. Et ce genre de choses qui permettent aussi d'animer la marque. Où je me souviens d'une intervention où on m'avait posé une question et ça m'est resté. Et toutes les équipes le ressortent à chaque fois au BPI, là, Big, ouais. L'événement au BPI. On me dit, c'est quoi les ambitions d'Ornicar? Je dis, elles sont simples, c'est juste qu'un jour, on va racheter Google. Et c'est con, j'ai dit ça parce que j'avais pas d'autre chose à dire. Et en fait, ça, c'est resté, ça a créé aussi quelque chose autour de la marque, aussi dans les équipes, etc. Et donc, ça a marché. Mais voilà, je pense que c'est un peu de culot. Ouais, du culot, du bullshit, mais en étant transparent, parce que je sais qu'on a quand même peu de chance de valoir 100 milliards et de racheter Google. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on ait des échecs. Et ça fait partie de nos valeurs. Nous, chez Ornicar, on a plus que deux valeurs, l'ambition et l'humilité, qui sont pour nous clés.
T'évoquais les échecs. Je crois qu'en introduction, dans l'échange avec Olivier, t'as évoqué l'Allemagne et le fait que vous étiez retiré.
Ouais. Ouais. Encore une fois, une de nos valeurs, c'est l'humilité, donc il faut constater les échecs. Et en Allemagne, on est arrivé sur un marché qui était... On pensait que la France était un marché compliqué en termes de régulation, et en fait, on s'est aperçu que face à l'Allemagne, on n'était pas si compliqué que ça. Et donc, on a lancé l'Allemagne en disant, on va réussir à travailler, faire du lobby pour changer un peu et assouplir la législation, c'est quand même un gros marché. Rien que sur le code de la route, en Allemagne, vous avez 14 heures obligatoires en salle de code. Bon, alors pour faire du code en ligne, on trouvait ça tellement aberrant qu'on s'est dit que ça tiendrait jamais, quoi. Il suffit juste que quelqu'un mette le doigt dessus et qu'on trouverait bien une petite faille dans la loi. Mais quand les Allemands ils rédigent des lois, ils font pas comme les Français, quoi. Il y avait aucune faille.
Pas d'abus de loi de droit possible.
Il y avait rien n'était possible. On a essayé, on a rencontré beaucoup de députés, enfin leurs députés, l'équivalent de leurs députés, etc. Avec beaucoup de c'est une super idée. Pour l'instant, un peu compliqué, très long, etc. Donc on s'est retiré. Et presque
quand tu dis on y allait déjà, ça voulait dire quoi?
C'est qu'on a embauché une équipe, ouvert un local d'auto-école, etc. On avait 5-6 personnes sur place. Et on faisait pas mal de trajets sur place pour aller faire un peu de lobby, défendre ou attaquer l'absurdité de leur modèle et défendre le, enfin.
Et donc ça, c'est toi et ton associé qui est en Allemagne, qui est...
Exactement. Okay. Avec un country launcher qui était sur place, quoi.
Mais est-ce que la culture, on prend l'exemple de l'Allemagne, mais plus globalement, si on élargit en commençant par l'Allemagne, mais à d'autres pays, est-ce que toutes ces régulations, enfin ce cadre légal, disons, est-ce qu'il est destiné à vraiment se prévaloir de la sécurité des conducteurs ou à protéger une profession?
Clairement, à protéger une profession. L'exemple, il est juste dans... il y a le confinement qui est arrivé. Après le premier confinement, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? Elle nous a rappelé en disant « Bon, on a changé la loi, ça y est, on peut faire du code complètement en ligne. »
Donc là, vous y allez?
On ne sait pas encore. Pour l'instant, on est déjà sur l'Espagne. Il y a aussi un truc, c'est courir 40 livres à la fois. C'est le meilleur moyen de se planter, quoi. Donc, on fait étape par étape. L'éducation, on la passeporte, en gros, en Espagne. Pour l'instant, on progresse sur l'assurance en France. Mais voilà, on veut pas non plus qu'il y ait trop de défocus pour les équipes parce que ce serait la meilleure façon de se planter.
Quoi. Et si on regarde après le plus gros marché du monde, ça reste les États-Unis du coup pour, ou en...
Sur quel marché
Pardon, sur le marché de l'éducation du coup, on imagine étant donné que la culture de la voiture aux États-Unis est
forte.
Ouais,
mais justement, ils n'ont pas vraiment de formation permis de conduire, ça dépend des États. Et finalement, c'est pas un marché global. Et donc, dans
donc
la plupart des États.
C'est État par État, d'accord.
Exactement. Et il n'y a pas de formation pratique dans la plupart des États, quoi. Donc, c'est pas un marché si incroyable que ça. Pour l'assurance auto, évidemment oui. Alors pour le coup, les insurtech ont bien vacciné le marché contre les insurtech elles-mêmes. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut le faire peut-être de façon plus assurantielle. Quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre de recruter Philippe. C'est pour faire les choses moins en tant que moins en tant que tech et plus en tant que insurance.
Un mot rapide sur la répartition avec quelques chiffres entre les deux activités Ornicar.
Ouais, aujourd'hui Ornicar, donc on en parlait, t'en parlais en intro. On a fait l'année dernière 67 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie éducation. On est un peu en dessous des 70 millions visés. Ça reste quand même 55% de croissance dans une année où il y avait quand même des confinements, etc.
Donc le rachat de Google seulement l'année prochaine.
Exactement. Il va falloir attendre encore 12 à 18 mois. et puis sur l'activité assurance, l'année dernière, on fait 10 000 nouvelles polices. C'est notre première année complète d'activité, quoi. Donc 2021, on fait 10 000 nouvelles polices.
Panier moyen
de la police, l'assurance, la prime moyenne, c'est 952 euros. Alors c'est cher parce qu'on a évidemment beaucoup de jeunes conducteurs. Voilà en gros les chiffres. Mais en termes de chiffre d'affaires, comptablement parlant, on est à 95% sur la partie éducation et évidemment 5% sur la partie assurance.
On n'a pas parlé d'acquisition possible. C'est des sujets que vous regardez?
Oui, c'est des sujets qu'on regarde. Encore une fois, on a encore du travail à faire chez nous, quoi. On a encore un peu de linge sale ou de linge propre à repasser, on va dire, avant de commencer à aller faire les lessives des autres, quoi. Donc, il y a un sujet d'organisation, on veut pas brûler les étapes. C'est un peu un monde de fou. Surtout 2021, il y avait des levées partout, etc. Et donc c'était la folie, une espèce d'euphorie, etc. Des recrutements dans tous les sens. Mais en fait, c'est le meilleur moyen de perdre pied.
Mais est-ce que l'acquisition, ça peut être une façon d'accélérer sur un métier en particulier, ou alors surtout une territoire, enfin une géographie, ouais. Ce qui est un peu à faire à côté. D'ailleurs, quand ils ont racheté Priceline, mais Blablacar a fait ça aussi dans le covoiturage, dans d'autres pays, pour accélérer, quitte à ensuite à bien prendre le temps qu'il faut pour intégrer la culture et la technologie.
Ouais, je pense qu'on n'était pas équipé avant le recrutement de ces deux super champions CEO. On n'était pas équipé pour le faire. Encore une fois, l'humilité et no ego policy qui fait partie de la culture d'Ornicar. Je pense pas qu'on avait les compétences pour pouvoir faire ça parce que c'est le meilleur moyen de se planter et c'était pas notre truc et on savait pas le faire.
On a beaucoup parlé des débuts et du coup de tes premières fois, premier apprentissage, premier coup de culot. Je te propose les dernières fois, dernier apprentissage.
Dernier apprentissage en date. La claque que le CEO éducation vient de nous mettre, il est arrivé il y a 2 semaines et demie, il nous a mis un gentil aller-retour sur le fait que on court pas un sprint avec deux boulets à la patte, quoi. Et donc il faut savoir prendre des décisions risquées. Tout à l'heure j'ai dit on n'a pas peur de mourir, mais on a quand même pas pris des décisions qui sont fortes sur le pricing et on a mis trop de temps. On n'a pas fait d'application mobile avant. Notre application mobile est sortie il y a un mois. On est en 2022 et on était persuadé que c'était pas nécessaire de faire une application mobile. 2021, Ornicar, c'est le 10e mot-clé le plus recherché sur Apple Store en France. On n'a pas d'application. Donc, y en a qui étaient ravis, c'était nos concurrents qui avaient une application, qui avaient gentiment acheté notre marque, mais ils auraient été évidemment stupides de pas le faire et je salue c'était très intelligent, mais c'est la fête est finie, quoi.
Dernier renoncement. Tu peux jouer au jeu des derniers.
J'en ai une. Alors vas-y, dernier renoncement.
À une partie de la marge qu'on va faire sur le code de la route, quoi, avec ce changement de pricing.
Dernière fois au volant.
Eh ben, je suis venu en voiture. J'habite à Paris et je suis en voiture tout le temps. Vous pourrez demander à mes équipes. Dès qu'elles m'appellent, je suis toujours en voiture. C'est devenu mon bureau. J'ai joué le jeu. Je suis en open space chez Ornicar. Mais ce qui fait que les conversations un peu confidentielles avec le board, etc., sont un peu plus complexes. Et donc, je les mets toujours dans mes heures pour venir au bureau et pour repartir. Je conduis tout le temps.
Dernier accident?
Dernier accident, si vous voulez la vérité, c'est avant mon permis de conduire. Voilà. Donc c'est la dernière fois que j'ai eu un accident, c'était avant d'avoir le permis. Alors j'ai eu un accident sur des voies privées, hein. C'est la dernière fois où j'ai cassé une voiture. J'espère que la seule et dernière fois.
Dernier salaire. T'as le droit d'être joker, hein.
Dernier salaire sur le prix, sur le montant. Non, ça je.
On parle souvent des premiers salaires, du coup je me suis permis le dernier, mais je peux comprendre que.
T'as raison, mais non, là-dessus, j'ai pas beaucoup de jokers.
Et
hein,
le premier en point.
Le premier en tant que Ornicar ou. Dans Ornicar, c'était 55 000 € par an. Voilà. Enfin, oui,
et au bout, et pas tout de suite.
Ah non, pas tout de suite, non. Non, mais c'est bien. Mais en fait, relativement rapidement, après 11 mois, donc. Quand on avait levé des fonds, quoi. Mais avant, on se payait pas. J'étais en 18 mètres carrés avec ma femme. Le cliché, quoi. Mais voilà.
Dernière erreur.
La dernière erreur, c'est d'avoir laissé trop longtemps notre prix du code de la route. Là, je suis très code de la route en ce moment parce que c'est un sujet d'actualité. La dernière erreur, c'est certainement le dernier point que j'ai perdu au volant parce que je roulais, je sais pas, 10 km/h au-dessus de la vitesse, quoi. Et c'était il y a 2 semaines.
C'est Martin Luther King qui nous interrompt, enfin, surtout qui nous
le timekeeper, ouais, c'est le timekeeper, Martin.
Non, mais c'est vrai qu'on est sur la perspective de réfléchir au rêve d'après. Alors ça peut être racheter Google, mais moi ça me faisait penser au fait qu'il y a aussi des réflexions sur la mobilité même chez Google, hein, la Google Car ou chez tous les grands GAFA. Et du coup l'avenir de la mobilité qui est souvent aussi toujours un peu interrogé. Parce que risque de réchauffement climatique, encombrement urbain ou pollution, qualité de l'air, mais aussi parfois inefficacité, tout simplement parce que parfois pour aller d'un point A à un point B, si ça prend trop de temps ou qu'on trouve pas de place de parking, c'est pas toujours efficace. Et est-ce que du coup il y a une vision chez Ornicar qui se dessine derrière ça? Est-ce qu'il faut y réfléchir, anticiper? Par exemple, la voiture autonome, si c'est un rêve ou pas, ou si ça devient des drones ou des voitures volantes, comme dirait Peter Thiel. Est-ce que ça c'est des choses qui il y a la place pour l'anticipation ou de l'intuition?
Évidemment, c'est clairement une question que te pose KKR quand ils investissent, hein, la voiture autonome, etc. Bon, la voiture autonome, c'est pas moi qui le dis, c'était le CEO de Waymo. C'est pour qu'elle ne nécessite pas de la supervision humaine, donc si je crois niveau 5, en fait ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais pour des raisons éthiques, parce que un jour la machine va devoir trancher. Tant qu'elle cohabitera avec des piétons par exemple et qu'il y a un accident qui est inévitable, est-ce qu'elle va devoir écraser la dame de 75 ans ou la dame de 25 ans avec une poussette,
ou écraser les gens qui sont dans la voiture, enfin
mourir le conducteur,
ou laisser mourir le conducteur. Donc ça, il y a des problèmes éthiques qui fait que on n'y arrivera pas. En revanche, le permis va évoluer, la formation va évoluer vers comment on apprend à gérer une machine autonome, quoi, ou semi-autonome, ou voilà. Donc on y pense. C'est aussi pour ça qu'on s'élargit sur d'autres sujets, à savoir l'assurance auto, et c'est pour ça que dans les axes de réflexion stratégique, évidemment, peut-être évoluer, sortir de la mobilité pure, peut-être une stratégie pour Ornicar afin de réduire cette exposition et ce risque face aux évolutions souhaitables ou pas de la mobilité. Ouais.
Donc comment ne pas devenir le Kodak du permis?
Mais on le sera pas, on le sera pas.
Voilà pour le monde d'après.
Eh ben, juste, très récemment, on a eu les élections présidentielles et on a lancé cette rubrique « Moi président » pour donner la parole aux entrepreneurs qui ont un regard sur le monde. On parlait de la vision à long terme. Si demain, je te nomme président, Benjamin.
Française, français.
Ok, si vous m'avez fait l'honneur de m'élire en tant que président, déjà je serais bien dans l'embarras, parce que c'est bien une fonction que j'ai pas envie d'occuper. Néanmoins, moi ce qui me tient à cœur et mon combat aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est, comment dire... permettre aux gens d'être plus à l'aise avec les notions d'argent. Moi, aujourd'hui, je le dis dans pas mal de podcasts, qu'est-ce qui me drive aujourd'hui chez Ornicard? C'est à 90% l'argent. Si j'ai fait ça, c'est pour acheter ma liberté, pour pouvoir partir en vacances quand je veux, avoir les moyens de m'acheter ou d'investir dans ce que j'ai envie de faire, etc. Donc, l'argent est un driver fort. Mais l'argent, il faut bien savoir et être capable de rendre à César ce qui est à César. Et à César, quand je parle de César, je parle de l'État français, sans qui, enfin, ou la France plutôt, sans qui Ornicard n'aurait jamais vu le jour. Et donc, je pense que moi, si je devais m'atteler à un combat, ça serait, est-ce que ça c'est possible dans un monde merveilleux que les Français soient fiers de payer des impôts, ne cherche pas systématiquement à les gruger, que l'État, je sais pas, mette sur un piédestal les gens qui gagnent beaucoup d'argent et donc qui payent beaucoup d'argent. Et je pense que voilà, aujourd'hui, et je le vois bien hein, dans le monde dans lequel j'évolue, etc., où il y a eu beaucoup d'investissements, de levées de fonds, de cessions, etc. Je côtoie des gens qui ont beaucoup d'argent, et les premières questions c'est comment t'as fait pour diminuer les impôts, quoi. Et à partir du moment où ces impôts sont sains et cohérents, c'est-à-dire que une fiscalité à outrance, c'est pas bon non plus, mais à partir du moment où c'est sain d'un côté, il serait normal que tout le monde joue le jeu et paye ses impôts et en soit fier et qu'on mette à l'honneur des gens qui contribuent aux impôts, qui payent beaucoup d'impôts, etc. Donc ce sujet de l'argent qui est, je pense, moins problématique aux États-Unis, qui est plus problématique en France. Surtout, moi, j'ai grandi dans une famille un peu vieille France, aristo, etc. Et donc, je renie pas du tout ça. Et j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de valeurs que j'aime beaucoup. Néanmoins, l'argent a toujours été un tabou, quoi. Parler d'argent, c'est mal élevé. Alors que parler d'argent, si on veut faire vivre une famille, grandir en France, etc., c'est important. Et tout ça, ça va avec les impôts. Et puis, je finirai sur un exemple une anecdote qui m'a marqué. Une fois, on a été donc à l'Élysée, c'était sous Emmanuel Macron pour le coup, et puis quelqu'un nous reçoit en disant on aime beaucoup ce que vous faites en gros, si on peut vous aider dans votre développement à l'international, etc., sachez que vous pouvez compter sur l'État français, machin, etc. C'est la première fois que je vais à l'Élysée pour qu'on me propose son aide.
Sans me faire engueuler.
Donc j'étais assez surpris et tout. Je vais réfléchir, mais effectivement, il y a peut-être 2-3 sujets. Parler avec des fonds d'investissement si jamais j'ai besoin de réassurance sur le cadre légal, sur le travailleur indépendant, blablabla. Enfin, tout un tas de sujets qui pourraient être éventuellement utiles pour nous. Et sur le parvis de l'Élysée, on m'accompagne. Et donc, c'est toujours un conseiller, hein, c'est pas du tout Emmanuel Macron, mais le conseiller me dit, et ça, je l'oublierai jamais. Il me dit, mais la seule chose que le président vous demande en échange, c'est le jour où vous aurez fait fortune, vous restez en France, vous payez vos impôts en France et vous vous souvenez que c'est grâce à la France que vous êtes arrivé là. Et c'était assez fort. Et depuis, voilà. Donc moi, si j'étais président, si on me faisait confiance, pour ça, ça serait un de mes combats. Mais soyons fiers de payer les impôts à condition que ces impôts soient bien utilisés, bien sûr.
Donc si je résume mon projet, c'est que ma feuille d'impôt soit instagrammable.
Ouais, non mais clairement, un jour, mon rêve, mais je sais pas si je le ferai, si j'ai le courage de le faire, c'est le jour où je vends ma boîte de publier le montant d'impôt que j'ai payé, quoi. Je sais pas si je le ferai parce que je veux pas que ça expose ma famille, etc., ou des choses comme ça. Mais si un jour j'avais la chance de vendre la boîte et là, peut-être que je le ferai. Il y a peu de chances que je le fasse parce qu'il y a trop de, c'est trop. Ça peut quand même générer.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette image. Moi, j'y avais pas mal réfléchi aussi dans le cadre de France Vital, hein, parce qu'on est tous les deux administrateurs de France Vital avec Benjamin. Et je me posais la question au départ, parce que c'était François Hollande, du rapport à l'argent en France et la question. Alors, effectivement, il y a le rapport aux impôts. Et puis, plus globalement, après, il y a aussi un rapport un peu compliqué au succès. Ouais. Alors, est-ce que ça vient de la Révolution française, de l'abolition des privilèges? Il y a un truc assez ancien.
Est-ce que l'un va pas avec l'autre? Est-ce qu'on n'attribue pas l'argent au succès, du coup, comme on...
Bah, en tous les cas, il y a cette idée un peu tous des voleurs, quoi. C'est-à-dire que l'argent n'a pas forcément été mérité. Mais c'est évidemment caricatural de le dire comme ça. Mais la réalité, c'est que très souvent, on cite assez rarement en France les entrepreneurs comme des exemples ou des gens les plus populaires. On préfère les footballeurs, qui pourtant gagnent aussi beaucoup d'argent. Mais les entrepreneurs en particulier, sont parfois, enfin, le monde de l'entreprise et le monde de la finance sont souvent suspectés. Alors, il y a juste titre, hein, il y a eu des abus dans le capitalisme et du capitalisme crapuleux. Mais c'est vrai qu'on a un petit souci quand même avec ça.
Ah oui, ça fait partie effectivement de l'ensemble de cette réflexion autour de l'argent en général. Ne pas culpabiliser ceux qui ont réussi et plutôt, je ne vais pas dire les admirer, mais plutôt essayer de reproduire ce qu'ils ont fait. Enfin, ça fera qu'avancer peut-être.
Les rôles modèles, c'est pour ça qu'on fait 40 nuances de Next.
Tout à fait. Alors, on a évoqué l'un de tes drivers. C'est un teaser parfait pour la partie 2 de 40 nuances de Next qui t'est consacrée et plus spécifiquement à ton parcours et à ce qui t'anime. Je vous donne donc à tous et à toutes rendez-vous pour la partie 2 de Benjamin.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.